Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
Je ne m'étais pas dit qu'il fallait que les femmes se battent pour leurs droits. Je pensais qu'ils allaient finir avec la République, avec l'égalité dans les statuts de la République par nous arriver. Je me suis aperçue que si on n'avait pas des femmes pour nous défendre, si on ne se défendait pas nous-mêmes, eh bien on n'obtiendrait jamais un seul des droits élémentaires.
Benoît de Groot dans Femmes en filigrane, documentaire réalisé par Marjorie Desjardins, prix du jury jeune au FIGRA en 2010. L'écrivaine et la combattante de l'égalité des droits qui était Benoît de Groot sont assez indissociables. Elle est partie dans son sommeil, je le rappelle, cette nuit. Elle avait décidé de se servir de ses mots, de son écriture, comme langage politique pour apporter sa pierre à l'édifice du féminisme. En 1975, 25 ans après le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, elle publie donc Ainsi soit-elle, livre manifeste dédié à Olympe de Gouges et sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, je rappelle, en 1791. Pour vous, Laura Adler, qui est à la fois aussi historienne et spécialiste du féminisme 19e et 20e, quelle est la place, l'impact de cet ouvrage et de la pensée, de l'écriture de Benoît de Groot ?
Écoutez, on est en direct. La mort fait des siennes aujourd'hui. Je viens d'apprendre par vous la mort d'un grand écrivain qui s'appelle Pierre Paché, qui était quelqu'un que je connaissais bien, que j'ai vu jeudi dernier à la terrasse d'un café, c'était derrière Beaubourg. Il était dehors, en train de prendre un café avec Emmanuel Carrère. Je lui ai demandé comment ça allait, il m'a dit « ça va pas bien, je reviens d'une grande opération, mais ça va aller ». Paché était beaucoup plus jeune que Benoît de Groot. Paché est un immense écrivain qui a trouvé des modes de narration complètement inventive à l'intérieur de la littérature française, qui pratiquait une porosité entre la fiction, le documentaire, ce qu'on appelle le réel, pour parler comme Clément Rosset. Paché s'est aventuré dans de nombreuses directions. Paché s'intéressait aux gens qui n'existent pas, qui ne sont pas visibles. Des gens, vous savez, ces petits vieux qu'on voit cachés sous des parapluies dans la rue en ce moment, ou des personnes âgées aussi dans les bancs publics qui n'ont plus vraiment de domicile et qui passent leur vie comme ça sur les bancs publics. Donc voilà, je suis très très émue d'apprendre la mort de quelqu'un comme ça en direct.
On est désolé de vous l'apprendre.
Alors je vais pas faire la biographe parce que je le suis pas. Je voudrais dire que Benoît de Groot, elle ne faisait pas mystère, et Catel le sait mieux que quiconque, elle ne faisait pas mystère d'être une militante pour l'association de Mourir pour la Dignité. Elle parlait très frontalement de la mort, elle l'attendait cette mort, elle l'a souhaitée, elle a profité de la vie, je crois, dans toutes ses possibilités, dans toutes ses jubilations. Elle a eu, les fées s'étaient penchées sur son berceau dès son plus jeune âge, mais de ces fées très bourgeoises, elle n'a pas voulu. Elle est morte, je crois, comme elle le souhaitait, dans le sommeil et dans l'accomplissement d'une œuvre qui a commencé sous les auspices d'une bourgeoisie éclairée et presque aristocratique, cette bourgeoisie, avec Marie-Laurencin d'un côté, Paul Poiret de l'autre, etc., etc. Donc, la mode, l'apparence, le corset de la haute bourgeoisie. Elle a mis du temps pour comprendre qu'il fallait qu'elle enlève tous ses carcans pour pouvoir complètement exister. Elle a eu beaucoup de malheurs très jeune parce qu'elle a épousé un homme qui est mort très, très vite. Ensuite, elle a épousé ce type très séduisant que les jeunes générations ne connaissent pas, mais qui était si beau, Georges de Caunes, mais qui n'était pas un bon mari, enfin en tout cas pas pour elle. Et puis moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que elle a fait son émancipation par étapes. C'est pas venu comme un coup de foudre ou comme une révélation, et elle a accompli un parcours qui est le parcours du XXe siècle. Et petit à petit, elle nous donne des leçons, finalement, d'ouverture à nous-mêmes, sans jamais porter de jugement moral.
Laura Adler, à l'instant, vous disiez un mot du style de Pierre Pachet et de sa curiosité pour les invisibles. À sa façon, Benoît de Groult, elle s'est intéressée à des invisibles qui constituent la moitié de l'humanité, qui sont les femmes, qu'elle a contribué à rendre davantage visibles aujourd'hui, même si d'aucuns voudraient les renvoyer à l'ombre et à l'invisibilité dans nos sociétés, sans parler du reste du monde. Mais puisqu'on a coutume de reprendre cette sentence de Buffon qui dit que le style, c'est l'homme même, féminisons-la, puisque Benoît de Groult, elle a aussi participé à la féminisation des noms de métiers, et on dit écrivaine grâce à elle aujourd'hui.
C'est pas ce qu'elle a fait de mieux. Hein. Moi, je trouve pas que ça soit un combat très valide. D'ailleurs, il est toujours pas gagné, ce combat. À quoi ça sert de passer de l'énergie pour féminiser nos professions? Parce que quand on le voit, des professions deviennent majoritairement féminines, à ce moment-là, l'opinion publique, qui est particulièrement machiste, donc l'opinion des hommes sur nous, les femmes, considère que cette profession, elle est moins intéressante, parce que justement, elle est majoritairement féminine. Donc il y a eu des combats beaucoup plus importants dans la vie de Benoît de Groult que celui de la féminisation des métiers. Je ne sais pas si Catherine.
Non, moi je ne suis pas de cet avis. Je trouve que c'est très important. Bonjour.
Bonjour, oui. On allait y venir quand même.
Eux, de bande dessinée.
Oui, moi j'adhère absolument à tout ce qu'a dit Laure Adler, qui a vraiment résumé magnifiquement la vie et le combat général de Benoît, qui en effet est passé du symbole d'une jeune fille du début du XXe siècle, rangée, très conventionnelle, dans un milieu bourgeois, à une militante active, impertinente, mais progressivement,
et
petit
drôle
à petit.
Et malicieuse.
Avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. Elle a vraiment combattu pour le droit des femmes. C'est vrai qu'elle a aussi connu un moment où la femme n'avait pas le droit de vote. Elle était professeure de latin en 1940 et elle ne pouvait pas voter, c'était aberrant. Donc elle a découvert petit à petit les libertés qui ont été accordées aux femmes et elle a en même temps pris son autonomie, son indépendance, s'est affranchie de beaucoup de choses, elle s'est divorcée, elle a pris son destin en main.
Elle dit qu'elle est née à elle-même à 35 ans.
Et voilà, exactement. Et c'est qu'au moment où elle a changé de vie, vraiment, elle a à la fois eu une vie de femme, de mère avec ses enfants, et puis une vie de professionnelle émancipée, d'écrivaine. Et elle insistait sur ce mot-là, justement, parce qu'elle pensait que dans la société, justement, tout est toujours porté sur le regard et par et pour le regard des hommes, et que les métiers sont valorisés, effectivement, quand ils sont masculins. Mais une femme ne pouvait être valorisée que si elle avait un métier dit masculin. On disait Madame le ministre, Madame le président. Et elle ne voyait pas pourquoi une femme ne pouvait pas être présidente ou ministre. Et ça a beaucoup changé parce que psychologiquement, il fallait que la société prenne conscience que la valorisation peut changer de camp. Alors là, effectivement, on peut penser que si ça change trop de camp, elle est de nouveau dévalorisée. Mais dans un premier temps, d'abord, il est important que la femme puisse avoir l'égalité des droits, donc l'égalité des métiers et des noms de métiers. C'est une qualification très importante.
Vous en avez fait votre Benoîtine, qui, contrairement à Bécassine, a de larges bulles pour s'exprimer. C'est ce que vous lui dites. Entre autres, quand elle râle, se voyant justement un peu enserrée dans ses bulles, elle donc qui n'avait le droit à la lecture que des Péniclés de Bécassine. Je pense que on peut peut-être l'évoquer maintenant avec vous. Ce qui vous unit au-delà d'Olympe de Gouges, à qui elle dédie Ainsi soit-elle et à qui vous avez consacré votre premier roman graphique, c'est la question des héroïnes. Comment se rêver, comment se projeter sans grande figure féminine autre qu'une Jeanne d'Arc, une pucelle, comme elle disait, brûlée au bûcher. Elle dit qu'elle voulait être Napoléon, Benoît de Groult, c'était son idéal. Oui. Est-ce qu'il y a ça aussi dans votre écriture, dans les romans graphiques que vous poursuivez aussi ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, on n'avait pas d'héroïne. Encore moi, à mon époque, et plus tardive, c'était difficile de trouver une héroïne dans laquelle se projeter dans la littérature, dans le cinéma, dans tous les arts. Vraiment, on a du mal à trouver une héroïne positive qui ne finit pas sur le bûcher ou décapitée ou je ne sais quoi. Et Benoît est devenue mon héroïne de vie parce qu'elle était positive. Elle a construit sa vie, elle a eu du bonheur, des amours. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Je crois qu'il y a des milliers de femmes qui ont pu se projeter en Benoît encore plus que justement Simone de Beauvoir, peut-être, dont elle a repris la parole. Elle l'a popularisée, peut-être, vulgarisée dans le bon sens du terme.
Démocratisée,
voilà, exactement.
Et elle a fait du féminisme une arme de liberté, alors que ce féminisme était considéré par certaines et par certains aussi majoritairement comme une sorte de stigmatisation. On voyait les féministes comme des espèces d'hystériques, enragées, voulant enlever le sexe des hommes, comme des espèces de givrées, etc.
Ah, c'est-à-dire pire réellement, oui. Oui.
Ouais, et d'ailleurs, à l'aube du mouvement féministe, c'est-à-dire de la naissance du MLF au début des années 70, Benoît de Groult a été extrêmement prudente avec ce mouvement et cette naissance du MLF. Elle y est allée mollo, elle les a considérés avec circonspection. Et puis petit à petit, elle a épousé leur combat, elle a vu que les droits élémentaires des femmes n'étaient pas respectés, et petit à petit, elle est devenue une militante. Mais ce que je veux dire par là, et je crois que c'est comme ça qu'elle restera dans l'histoire du féminisme, c'est qu'elle a permis de faire comprendre au plus large public, et quelles que soient les générations, des filles de 16 ans, des filles de 20 ans, des filles de 30 ans, et quelles que soient les classes sociales, y compris des mamies de 70 ans, et dans toutes les classes sociales, elle a permis de démocratiser, de populariser le féminisme comme étant un combat qui évidemment concerne toutes les femmes, mais qui concerne aussi les hommes. Et grâce à elle, il a fait moins peur. Et grâce à elle, il s'est légitimé à la fois dans ses ambitions, dans ses orientations, à un moment où il avait bien du mal à s'imposer à l'opinion publique, aux médias, parce qu'il était considéré comme marginal et subversif. Elle l'a embourgeoisé d'une certaine façon, comme en 1848, les femmes bourgeoises ont accompagné, lors de la révolution de la deuxième révolution de juin 1848, eh bien, les féministes bourgeoises ont accompagné les féministes ouvrières et ont ainsi légitimé le mouvement féministe.
Et Benoît de Groult, elle a mieux compris leurs filles aussi.
Oui. Et donc, elle a un rôle historique et politique, je crois, au niveau de cette constellation qu'est le féminisme aujourd'hui.
Alors il y a ce rôle historique et politique, et il y a aussi cette grande figure, pour reprendre les titres des hommages qui lui sont rendus aujourd'hui dans la presse, une grande figure de la littérature, et précisément un homme est à nos côtés, un homme qui l'a accompagné, non pas depuis ses débuts d'auteur et d'essayiste dans les années 70, mais plus récemment, Manuel Carcassonne, qui est en ligne avec nous depuis Bruxelles, éditeur donc de Benoît de Groult chez Grasset. Manuel Carcassonne, vous êtes un des personnages, je n'ose pas dire un des héros du roman graphique de Catel, donc ainsi soit Benoît de Groult, et on vous voit apparaître pour le repas d'anniversaire de ses 90 ans, où vous vantez la perfection de son travail, et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot de la perfection du travail de Benoît de Groult, et peut-être en particulier de ses manuscrits, qui étaient des manuscrits au sens propre du terme.
Écoutez, oui, bonsoir, d'abord je suis très, très ému de cette disparition. Le hasard complet a voulu que dans la journée d'hier, je vais faire écho à Laura Adler, pardon, je suis un peu sous le choc, parce que j'ai rangé ma correspondance avec Benoît hier, et le soir, je suis allé à une projection où j'ai parlé avec Pierre Paché. Et j'ai appris ce matin par Kolomschneck, sa nièce, sa mort. Donc c'était très troublant, cette coïncidence, pardon, de ce début un peu solennel. Benoît de Groult, pour moi, Laura Adler vient de rappeler magnifiquement son rôle dans le féminisme, et Catel vient de rappeler son rôle comme une féministe redécouverte par sa génération. Moi, je suis un homme, c'est pas une raison pour ne pas écouter les féministes, mais je suis toujours un peu peureux vis-à-vis de certaines féministes historiques plus offensives que Benoît. Et pour moi, Benoît, d'abord je l'aimais et je la respectais, mais pour moi c'était surtout, comme l'a d'ailleurs dit Catel, une professeure de vie à travers la littérature. Je pense que j'ai eu la chance de la connaître, disons, dans ces 15 dernières années. La première fois que je l'ai vue, c'était avec son mari, Paul Guimard. Je voudrais rappeler quand même qu'elle a été mariée presque 50 ans, je crois, à Paul Guimard, et qui formait un couple avec, certes, quelques manières d'apprivoiser le réel qu'ils avaient en commun, mais qui formaient un couple exemplaire et d'une séduction à eux deux incroyable. Et Benoît de Groult, c'est à travers la littérature, à travers une littérature populaire au bon sens du terme, La Touche Étoile, le roman qui lui a fait reconquérir le public, c'est plus de 300 000 exemplaires en grand format. Mon Évasion, que nous avons republié ensemble, c'est plus de 100 000 exemplaires. Et qu'est-ce qui touchait le public? C'est pas tellement, pour le coup, beaucoup peut-être le féminisme ou la figure historique Laure a bien rappelé, c'est cette incroyable générosité, humour, pétulance, énergie que Benoît avait. Et je pense que c'était quelqu'un qui était incroyablement jeune. Je me souviens d'être allé à Strasbourg. J'ai traversé la France dans tous les sens avec elle. Et je me souviens d'être allé à Strasbourg. Nous avions fait deux conférences ensemble, bien longtemps, pour la touche étoile. Et cette femme qui avait déjà probablement 85 ans, a fait deux conférences, il y avait plusieurs centaines de personnes, nous sommes rentrés, il était 11h30, j'ai dit à Benoît devant l'hôtel, écoute Benoît, peut-être on se lève tôt demain matin, on va peut-être aller se coucher. Elle m'a toisé, à la fois un peu méprisante presque pour mon manque d'énergie, et en même temps, elle savait qu'elle avait marqué un point, elle m'a dit, non, il n'y a pas question, j'ai dit, mais quoi, il n'y a pas question, non, nous allons dîner, j'ai faim. Et à 11h30, nous sommes allés dans une grande brasserie de Strasbourg où Benoît continue de raconter des histoires qui pouvaient aller de l'âme de Gouges à François Mitterrand, qui pouvaient aller de sa découverte que Catel s'est périlleuse de la bande dessinée. Parce qu'elle n'avait pas de la bande dessinée, en tout cas au début, une grande opinion, puis Catel l'a convertie. Ça pouvait aller de la bande dessinée à la manière dont elle pensait que les jeunes femmes comprenaient mal le féminisme. Et tout ça le faisait avec une sorte de jubilation, une sorte de... Oui, d'amour de la vie, qui, je crois, a été contagieux et qui a convaincu des centaines de milliers de lecteurs et de lectrices, mais pas que de lectrices, car j'ai été dans beaucoup de rencontres avec elle. Il y avait des hommes, il y avait majoritairement des femmes qui lisent, mais il y avait des hommes aussi. Et elle avait cette incroyable brusquerie, drôlerie, et elle pouvait vous parler de l'orgasme féminin qu'elle venait de lire une lettre d'une dame de 80 ans. Elle me l'a lue dans un train, comme elle lisait à assez haute voix, tout le train en a profité, d'une dame de 80 ans qui, pour la première fois, avait connu un orgasme. Elle disait, voilà les méfaits de la sexualité, jusqu'à vous décrire avec le sérieux de la bonne élève, de la bonne bourgeoisie qu'elle avait été, avec sérieux un texte qu'elle avait lu, et elle sortait de son sac un article de journal ou un livre qu'elle venait de lire pour le prix féminin, et elle vous le décortiquait, elle vous disait qu'elle avait aimé, si, pas aimé ça, etc. C'était un personnage vraiment délicieux, important dans l'histoire du féminisme, important dans l'histoire de la littérature, et une femme merveilleuse.
Merci, Manuel Carcassonne.
On va écouter justement Benoît Groult dans sa causticité et dans, comme elle le disait chez Olympe de Gouges, sa manière à elle de donner l'idée de la transmission du possible des femmes.
Aujourd'hui, les vieillards sont des pauvres cons. Enfin, c'est des gens qu'on n'écoute plus, les grands-mères non plus, comme si elles ne savaient rien, comme si elles n'avaient rien vécu. Et il y a une espèce de discrédit. On ne vous voit plus dans la rue puisqu'on n'est plus une séductrice, qu'on ne porte plus les mêmes tenues affriolantes. Et je sais que mes petites filles n'ont aucun respect pour moi. D'abord, je n'avais pas voulu qu'on m'appelle mamie. Je n'étais pas rentrée dans le rang des grand-mères. Ça ne lui plaisait pas beaucoup. Elle aurait voulu que je sois une grand-mère traditionnelle, toujours disponible, alors que je continue à travailler encore maintenant. C'est indécent. Mon expérience, elles n'en ont rien à faire. Elles ont une expérience neuve. Elles commencent à 15 ans à se sentir adultes, à faire l'amour, à avoir la liberté de choisir leur vie. Donc, elles n'attendent rien de gens de plus de 70 ans.
Laure Adler, on entend à l'instant Benoît Groult, je disais, elle avait salué chez Olympe de Gouges l'idée de la transmission du possible des femmes. C'était ça qu'elle appréciait.
Enfin,
et là,
Olympe
on voit...
de Gouges, la pauvre, elle est morte sur l'échafaud quand même. Hein.
Mais comme,
elle n'a pas eu à transmettre, hélas, elle n'a pas pu.
Mais l'idée... C'est l'idée, c'est l'élan, c'est finalement, comme elle le dit, c'est le sexisme qui l'a conduit à l'échafaud dans la bande dessinée de Catel. C'est le regard qu'on pose sur elle plus que sa
oui,
position.
Oui, mais moi, j'aurais pas tout à fait la même idée, mais c'est pas le lieu pour entreprendre un débat historiographique. Je pense que c'est parce que elle était contre la violence politique, Olympe de Gouges, qu'elle était pour les Girondins, qu'elle s'est toujours battue contre la peine de mort. qu'elle était contre la terreur, qu'elle a dit haut et fort, et elle a été une des rares, ce qu'elle pensait de Robespierre, qu'elle a été exécutée sur l'échafaud, et pas, comme le veut une certaine légende féministe, parce qu'elle était féministe et parce qu'elle a écrit donc au féminin cette fameuse déclaration soi-disant universelle des droits de l'homme. Donc il ne faut pas faire du féminisme une sorte de légende et une série de clichés, mais par contre... Je trouve qu'il faut souligner chez Benoît de Groult son engagement politique, dont on parle très peu, et donc a-t-elle a magnifiquement parlé dans son roman graphique. Vous disiez tout à l'heure qu'elle avait été la compagne avec Paul Guimard, qui formait un couple extraordinaire. Mais vraiment, alors on a rien que de les regarder s'aimer, marcher dans la rue, partir dans leur île pour aller pêcher dans leur petit rafio
en Irlande
tous les étés, etc., vivre comme des espèces de tourtereaux solitaires. C'était extraordinaire. Paul Guimard était un grand écrivain. Donc, ils ont vécu aussi dans un amour de la littérature et de la littérature la plus exigeante. Et Paul Guimard a été aussi le premier conseiller culturel de François Mitterrand en 1981. Paul Guimard était très lié à François Mitterrand. Et ce qu'on ne sait pas, mais qu'a-t-elle le sait, et je pense qu'aujourd'hui, puisqu'on lui rend hommage, il faut pas oublier cette part d'elle assez peu connue, c'est que Benoît de Groult s'est toujours, toujours battu pour le droit à l'avortement. Certes, elle n'était pas la seule, mais en 1965, quand François Mitterrand a fait sa première campagne présidentielle et qu'il a réussi au deuxième tour à mettre en ballottage le général de Gaulle, par qui François Mitterrand était-il accompagné dans les premiers spots télévisés ? Par Benoît de Groult, qui était sa caution féministe déjà en 1965. Donc cette femme avait de la suite dans les idées, cette femme a réussi à populariser des combats qui, à l'époque, étaient ultra minoritaires. Et cette femme l'a dit avec cette espèce de simplicité, de modestie et d'évidence. Et elle avait aussi ce pouvoir de conviction parce que ce qu'elle disait, elle le pensait vraiment. Il n'y avait jamais de double bande avec elle.
Ah oui, oui, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, sur Olympe de Gouges, pareil, parce que c'est exactement ce qu'on dit dans la bande dessinée aussi. C'est un problème politique avant tout. Et effectivement, on a après un peu amalgamé le féminisme, qui d'ailleurs n'existait pas au XVIIIe siècle, donc c'était même pas un terme utilisable.
Mais c'est elle, dans sa conférence à l'UNESCO, hein, qui parle de cette idée de transmission du possible de la femme. Vous la représentez d'ailleurs.
Le possible de la femme, c'est toutes les propositions qu'Olympe avait faites, en effet, qui n'ont pas du tout été écoutées, un peu pour le divorce, mais ça a vite été oublié sous Napoléon. Elle avait un tas de propositions, un tas d'idées, Olympe, de bon sens, d'une femme généreuse. Et c'est vrai que Benoît a ça en commun avec Olympe, je pense, dans la personnalité, c'est cette spontanéité, cette envie de transmettre des idées, une avancée, une libération des femmes. Et elle était fascinée par Olympe, moi aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que Benoît a repris ce combat aujourd'hui, l'a développé et a rencontré un grand public, heureusement, contrairement à Olympe.
Et puis il y a aussi autre chose qu'on oublie de dire, parce qu'on parle d'un énorme succès. Tout à l'heure, Manuel Carcassonne, à juste titre, a rappelé l'énorme succès de La Touche Étoile, que je conseille à toutes les jeunes auditrices, parce qu'il n'y a pas que les vieilles comme moi qui peuvent lire avec plaisir ce genre de choses. Mais elle a, comme Simone de Beauvoir, parce que moi je crois que le féminisme, et je pense que Catel sera d'accord avec moi, le féminisme c'est un mouvement, c'est un collectif avec des individualités qui sont proches ou pas proches, qui se rejoignent à certains moments, mais en tout cas c'est être ensemble. Et Simone de Beauvoir l'avait précédée, 20 ans auparavant, en écrivant un magnifique livre sur la vieillesse. Et je vous assure que quand on est une femme, et qu'aujourd'hui, un des interdits les plus terribles, c'est justement la vieillesse, eh bien, Benoît de Groult a écrit ce livre absolument remarquable pour dire que quand on vieillit, on continue à exister, que quand on est une femme, on n'est pas réduite à son apparence, on continue à penser, on continue à réfléchir, on continue à pouvoir donner de l'amour, on continue à pouvoir transmettre l'idée des possibles, mais à l'intérieur de notre société aujourd'hui, c'est un interdit majeur, et Benoît, dans son dernier livre, a rendu hommage à cette part invisible d'une certaine féminité.
Et vous semble-t-il, Laure Adler, qu'elle a réussi à faire un peu changer, parce que vous évoquiez la figure de Paul Guimard, qui a été donc son mari pendant près de 50 ans, qui lui aussi a écrit un ouvrage à la fin de sa vie sur la vieillesse, l'âge de pierre, et à sa mort, justement, Benoît de Groult avait pu signer un article où elle citait notamment cette phrase du livre de Paul Guimard, je suis d'une race différente de l'espèce humaine où je m'achève. L'idée que, voilà, en traversant les générations, on se retrouve seul et différent. Vous avez l'impression que Benoît Groult, à l'heure où s'achève son existence, était d'une race différente de la nôtre, nous qui sommes vivants aujourd'hui?
Elle était tellement modeste, elle était tellement adorable, elle était tellement presque... Elle s'excusait de parler, elle s'excusait d'exister, qu'on lui porte de l'attention, qu'on fasse un entretien avec elle. Manuel Carcassonne parlait tout à l'heure de Strasbourg, etc. Moi, je me souviens d'une soirée merveilleuse que j'avais passée avec elle en présence de Manuel Carcassonne aussi, à Évian, où il y avait mais des centaines et des centaines de gens qui étaient dehors, qui étaient aux portes, pour écouter Benoît. C'était une rockstar, Benoît, à 85 ou 88 ans, parce qu'elle apportait, qu'a-t-elle l'a dit tout à l'heure, elle apportait l'espoir, elle apportait à chacune et à chacun d'entre nous, parce qu'elle a jamais considéré que le féminisme était uniquement l'histoire des femmes. Elle a toujours pensé que le féminisme était l'histoire des femmes et des hommes. Et donc, elle apportait la possibilité de mieux vivre ensemble. Mais je crois pas qu'elle se pensait une surfemme. Pas du tout. Au contraire, elle a passé, je pense, déjà 35 ans de son existence à pas pouvoir écrire. Ensuite, rappelons-le, quand elle a commencé à se dire qu'elle avait peut-être la légitimité de pouvoir signer un bouquin, elle l'a fait avec qui? Avec sa sœur.
Avec Flora. Ouais.
Et elle a signé à quatre mains. Donc, vous voyez tout le combat des femmes pour commencer à exister. Donc, moi, je dirais qu'elle était comme nous. C'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse faire. Elle nous a donné à nous toutes, chacune, la possibilité de croire un tout petit peu en nous.
Elle et Marie-Claire se battaient pour le droit à l'avortement. Aujourd'hui, les journaux féminins sont d'une frivolité et d'une futilité accablante. Ils ne vous parlent plus que de votre tour de sein, de votre tour de fesses. Gonflez-vous aussi, Nico, ça plaira aux hommes. Quoi faire pour rattraper un homme quand vous venez d'en perdre un? Vous ne pouvez pas vivre sans homme. Et maintenant, on leur dit, vous pourriez peut-être rentrer à la maison quelques années, parce que c'est dur d'exercer un métier, d'avoir des enfants.
Ainsi soit Benoît Groult, on a envie de le reprendre, ce titre qui est le vôtre, qu'a-t-elle dans ce roman biographique, roman graphique autour de Benoît Groult. On entend sa causticité à nouveau, son regard, la femme de presse aussi qu'elle était sur la presse féminine aujourd'hui. C'est un trait aussi que vous avez suivi, son regard sur le monde contemporain et sur... tout à l'heure, on rappelait avec Laura Adler qu'elle avait un petit peu popularisé et démocratisé l'idée du féminisme, mais il revient très vite. Il y a un ressac de refus du féminisme ou de désignation comme quelque chose un petit peu dépassé, comme un combat d'arrière-garde, alors que finalement, c'est là, c'est tapis dans l'ombre, c'est toujours prêt à revenir et il faut maintenir le combat sur l'égalité des droits. Vous l'avez senti, ça, vous, dans son regard, quand vous étiez avec elle pour échanger autour de cette bande dessinée?
Ah oui, elle était d'une étonnante modernité. Et comme le disait très justement Laure, elle représentait vraiment le féminisme. Elle-même disait que c'était un humanisme, le rapport homme-femme, mais comme quelque chose d'évolutif. Et elle évoluait avec, et avec la société, et elle discutait tout le temps, elle était tout le temps en mouvement avec tout le monde, et elle réagissait à tout ce qui se passait, tout le temps. Dans la bande dessinée, je raconte à la fois son passé, son histoire, l'histoire de ses parents, de son éducation, du monde duquel elle s'extrait, et à la fois ce qu'elle est devenue et ce qu'elle est aujourd'hui, à 90 ans, ce qu'elle a été, c'est-à-dire une femme qui a son regard sur les événements présents, que ce soit l'affaire DSK, par exemple, sur laquelle elle avait un avis très tranché, ou à l'époque, bon, tout le monde entier en parlait, mais elle avait vraiment un avis différent, pas du tout conformiste et quand même féministe. C'était très intéressant, mais aussi sur les boys bands ou... ou sur la vieillesse, sur les femmes, les rapports hommes-femmes en vieillissant. Et toujours, nous avions ces discussions en rapport avec l'actualité.
Laure Adler, une réaction quand même, parce que je vous voyais savourer aussi cet aspect femme de presse, qu'on n'a pas du tout évoqué ce soir autour de Benoît Groult.
Ben parce qu'on a oublié, vous voyez, dans le féminisme, on oublie beaucoup plus que dans les autres histoires plus officielles. On a complètement oublié la participation ô combien incandescente de Benoît Groult à F Magazine.
Bien sûr, avec Claire Bretéchy en couverture.
Vous êtes trop jeune, vous en souvenez pas, vous pouvez pas. Et hélas, dans les manuels d'histoire, on nous apprend pas cette histoire-là. On nous apprend pas à quel point il y a eu, dans les années 80, une possibilité pour les femmes de faire un journal hebdomadaire qui parlait d'elles, qui parlait de leur santé, qui parlait de leur beauté, qui parlait de leur lecture, qui parlait de leur monde intérieur, etc., etc. Cette presse, aujourd'hui, si, il y a quand même des journaux formidables, comme par exemple Cosette, hein, et pas seulement, mais ça tire moins, ça intéresse, je crois, autant de personnes, encore une fois, autant de filles que de garçons, mais c'est moins à la mode. C'est moins à la mode, alors j'espère que ça va revenir.
Et
qu'on
ne
va pas mettre
Benoît
Groult au magasin des accessoires et dans le monde patrimonial à tout jamais.
Et on en est presque à dire qu'il faut retourner à la maison, comme le dit Benoît Groult.
Ah non, on espère que non, quand même, on est là pour le prouver. Mais F Magazine a quand même eu une vie courte, il faut le rappeler.
Oui, trop courte.
Ça a été vite rattrapé par les hommes qui ont décidé qu'en couverture, Dalida ferait bien meilleur effet que comment travailler et se débrouiller sans hommes. Donc même à cette époque-là, c'était difficile. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui vont en arrière, d'autres qui vont en avant. Enfin, c'est quand même quelque chose de très vivant. Et en même temps, c'est positif. Nous sommes là pour en parler, justement. Et c'est pour ça qu'on rend hommage à Benoît, qui elle-même a rendu hommage, etc. C'est une parole qui se répète et qui s'enchaîne et qui se passe d'une féministe à l'autre. Et c'est comme ça que le monde va marcher et avancer, me semble-t-il.
La liberté ne se prend pas, elle s'apprend. Je crois qu'il faut une ou deux générations de femmes libres pour qu'elles soient vraiment libres. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission humaniste et donc féministe.
À suivre, les grands chantiers féministes du 21e siècle, selon Benoît Groult, à savoir le clitoris, le désir féminin et aussi ces hommes déclassés.
Mais tout de suite, il est l'heure du journal de la culture avec Zoé Svez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir Zoé.
Zoé, vous consacrez, nous l'avons dit, votre journal de la culture ce soir à une autre figure importante disparue aujourd'hui, Laure Adler, qui vient de s'éclipser, nous en a dit un mot, c'est le romancier essayiste Pierre Pachet, disparu aujourd'hui.
Oui, romancier essayiste et surtout critique, vous ne l'avez peut-être pas lu. Si vous ne l'avez pas lu, vous l'avez certainement entendu sur notre antenne, puisqu'il est apparu, quand vous regardez, dans Hors-Champ, il dialoguait avec Laure Adler et Emmanuel Carrère il y a quelques semaines. Il est venu sur cette antenne parler aussi bien de Balzac, du Colonel Chabert, de la Chine, de René Girard, de Claude Lefort qui fut son ami, du poète Zbigniew Herbert, de Patrick Modiano. Bref, sa présence sur nos antennes sur tous ces sujets reflète assez bien l'esprit d'honnête homme qu'il fut. Universitaire, spécialisé dans la littérature française, il a largement dépassé le simple cadre de la critique, du commentaire. Il a étendu son regard et puis son écriture à tout ce que le monde pouvait lui offrir à voir. Olivier Rubinstein est l'ancien directeur des éditions de Noël. Il a publié et republié d'ailleurs plusieurs de ses ouvrages. Il fut son éditeur, dont le dernier, Sans amour, en 2011. Il fut aussi son ami. Voici ce qu'il en dit.
C'est quelqu'un qui avait qui était un universitaire au départ, qui a une longue carrière très respectée aux États-Unis comme en France. Ce qu'il caractérise, c'est qu'au premier abord, c'est quelqu'un de très désagréable, très ironique et qui pouvait surprendre. Il fallait franchir une barrière. Mais une fois qu'on avait franchi cette barrière, c'était l'homme absolument le plus charmant du monde, le plus drôle. Et c'était une sorte d'esprit universel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'intéressait vraiment à tout, à la littérature bien sûr. J'avais réédité son premier livre qui était un essai assez magnifique sur Baudelaire, puis qui s'est beaucoup intéressé aux politiques. Il était, je pense, de par son expérience personnelle, de par les années qu'il avait traversées, hanté par le totalitarisme. Hanté par le totalitarisme nazi, par le totalitarisme communiste. Et je crois que ces deux totalitarismes étaient quelque chose qui ont constamment plané autour de lui.
Effectivement, puisque Pierre Pachet était l'héritier d'une tradition juive de Roumanie, qui fut donc d'abord et avant tout universitaire, puis surtout, on l'a peu dit, mais une figure critique extrêmement importante, compagnon de route de Maurice Nadeau. Il travaillait à la Quinzaine littéraire depuis les années 70, même s'il ne partageait pas ses idées politiques, pas du tout trotskiste. Il revendiquait une très forte indépendance de ce côté-là. Il a fait partie, donc on l'a dit, de toute cette aventure. Puis après la crise, il a été l'une des trois personnes qui faisait partie de la direction éditoriale de En attendant Nadeau, cette nouvelle aventure totalement numérique dans laquelle il s'est énormément investi, m'expliquait Tiphaine Samoyau. Elle avait rendez-vous avec avec lui ce matin pour justement travailler sur la nouvelle maquette de la 13e édition d'En attendant Nado. Pour elle, il reste avant tout la figure éminente du critique.
Il avait ce rôle d'être un critique au sens plein du terme, c'est-à-dire en faisant de la critique à la fois une pensée, une politique, une écriture. De cette manière-là, il pouvait pour moi être qu'un modèle. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit jamais devenu romancier. C'est vraiment un écrivain de l'intime, un écrivain de l'intimité. Il a d'ailleurs écrit un texte extraordinaire là-dessus, qui est Les baromètres de l'âme. Mais je crois que c'était, oui, avant tout un critique, mais en donnant une très grande force à ce terme. Moi, ce qui m'intéressait chez Hachet, c'est moins peut-être sa lecture de la littérature que sa lecture des penseurs d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui lisait énormément de philosophie. Par exemple, ce qui caractérise aussi Pierre Pachet, c'est son indépendance politique. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais été dans aucun mouvement totalitaire ou parti totalitaire au cours des années 60-70. Il était aussi très intéressé, d'ailleurs son dernier livre porte sur la Chine, mais très intéressé par les pensées orientales. Enfin, il cherchait toujours à renouveler son regard sur le monde avec l'aide de la pensée. Donc c'est en cela que même son écriture est travaillée par la critique.
Alors son écriture, on en a peu parlé, mais effectivement, l'écriture, il la développe, il entame dès 76 une vraie œuvre d'essayiste, de romancier qui compte près de 20 titres. Il explore notamment, dans une très belle autobiographie de mon père en 87, tous les territoires de l'intime. Il essaye de se raconter un petit peu à travers les figures des autres. C'est un peu comme ce que disait Laura Adler. Olivia Rubinstein, son ancien éditeur chez De Noël, elle l'a rejoint. Il estime que l'écriture de Pierre Pachet ne ressemblait finalement quasiment à aucune autre.
Il m'apportait souvent des fragments de textes qui ne savaient pas toujours très bien quoi faire. Les dernières années, la question de la vieillesse le hantait beaucoup. C'est quelqu'un qui aimait la vie, il aimait les femmes. Et donc, il m'amenait des fragments de textes comme ça. C'était jamais des textes très très longs, mais ça faisait des livres très singuliers. Par exemple, je me souviens en particulier d'un livre qui s'appelle « Sans amour », qui racontait des destins de femmes, souvent juives, souvent seules, qui vieillissaient, assises sur des bancs, à attendre comme ça. Et c'est quelqu'un qui arrivait à capter parfaitement et à restituer parfaitement le sentiment de perte, le sentiment de solitude. Mais c'est vrai que c'est un personnage singulier dans la littérature française parce que c'est pas vraiment un romancier, bon c'est un essayiste c'est sûr, mais qui produisait des essais qui ressemblent pas à grand chose d'autres. Et puis c'est quelqu'un que j'aimais profondément quoi.
Voilà, alors L'âme bridée, c'est le dernier ouvrage publié par Pierre Pachet. Pierre Pachet qu'on peut lire, relire toujours, puisque tous ses textes sont présents encore sur le site d'En attendant Nado et que vous pouvez évidemment réécouter sur le site de France Culture, puisque comme je l'ai dit, il est présent avec cette très belle voix chaleureuse sur toute une série d'émissions, sur toute une série de sujets qui sont un peu à son image hétéroclite et passionnants.
Merci Zoé. Eh bien, on peut retrouver aussi sur le site de France Culture, franceculture.fr, toute une page dédiée à la mémoire, à l'œuvre et à la voix de Benoît de Groult qui a disparu et qui, du coup, est l'objet, le sujet de notre émission ce soir et pour laquelle, cette émission, nous sommes dans la compagnie de Katel Müller qui lui a consacré Ainsi soit Benoît de Groult, un roman graphique publié chez Grasset. Katel Müller, vous partagez avec Benoît de Groult le fait que de pouvoir dire que l'encre est votre sang. Alors vous, c'est pas l'encre du stylo, c'est l'encre qu'il y a dans le feutre ou dans le feutre pinceau qui vous accompagne en toutes circonstances. Est-ce que vous accepteriez, comme vous l'avez fait pour ce roman graphique Ainsi soit Benoît de Groult, de dessiner Benoît de Groult, et peut-être de nous la décrire dans le même mouvement, sans lui faire, je crois, les yeux trop en amande.
Oui, sa petite remarque dès le début. Évidemment, ça a été une difficulté pour moi au début de faire de Benoît de Groult, cette héroïne de la vie, de ma vie et de la vie de beaucoup de femmes, un personnage de bande dessinée. Surtout que pour elle, la bande dessinée, c'était Bécassine. Et Bécassine, c'est une abrutie
qui n'a pas
bretonne,
de bouche.
Sans bouche, qui ne peut pas s'exprimer. Elle a une bouche, mais comment vais-je la dessiner? Elle a quand même presque 90 ans quand je la rencontre. Elle est plus toute jeune, mais elle est très belle toujours, avec ses quelques rides, et elle est très coquette, elle se maquille, elle est toujours bien habillée, soignée. Donc je veux à la fois en faire une femme de son âge quand même, ce n'est pas une jeune femme, mais ce n'est pas non plus une vieille dont on parlait à l'instant, transparente, sur un banc oublié.
Ou une vieillasse, comme elle le dit elle-même, voilà, Benoît Groult.
C'est pas du tout la description des personnages de Pierre Paché, c'est un personnage solaire, très charismatique, Benoît. Quand elle parle, on l'écoute, elle a une voix qui porte, elle a un physique, elle a des yeux très bleus, très lumineux. Et elle les a un petit peu en amende parce qu'elle s'est fait un petit peu tirer quand même. Elle parlait d'esthétique, mais elle n'était pas pour que les femmes se dégradent. Elle trouve que l'esthétique peut aider à rester jeune et belle en apparence le plus longtemps possible pour rester quand même dans la séduction. Je crois que c'est ce qui d'ailleurs plaisait beaucoup en réalité aux femmes, c'est de pouvoir être en empathie avec elles, car elle représentait la féminité dans son côté aussi un peu léger à des moments sur l'aspect beauté physique, mais sans aller trop loin, justement, sans vouloir absolument correspondre à des canons, je dirais plutôt organisés par la gente masculine, sur des talons aiguilles, avec des maquillages outranciers. Elle était juste comme il fallait, sans doute son éducation bourgeoise aussi, maquillée comme il le fallait, refaite un tout petit peu, tirer les yeux un petit peu. Donc ça lui donnait un aspect assez jeune tout de même. Et quand je l'ai dessinée la première fois, je lui avais fait un petit peu ses yeux en amande et elle trouvait qu'elle avait l'air un peu mongolienne comme ça. Donc il a fallu travailler jusqu'à trouver le bon personnage en toute simplicité, une sorte de Tintin au féminin de 90 ans, et à force de chercher la forme de son visage, d'en garder les traits principaux assez ovales, et puis deux petites rides au coin des lèvres, voilà, avec très peu de choses, une coiffure toujours apprêtée, des petits yeux maquillés, et bien en trois traits j'avais créé ma Benoîtine, hein, qui lui allait très bien comme ça. Elle voulait que je la redresse aussi un petit peu, pas trop voûtée. Donc on a discuté de comment elle se percevait, comment je la percevais, comment on allait créer cette Benoîtine. Et c'était parti pour jouer son rôle sur 350 pages.
On va écouter votre Benoîtine.
Mais on ne nous apprenait rien sur notre corps. Les femmes ne savaient pas comment elles étaient faites. Elles apprenaient comment on fait des enfants, de briques et de brocs, dans des dictionnaires où c'était très mal expliqué. Je me souviens des grandes planches anatomiques du quillet de mes parents, de mon père, à homme. Il était vu tout entier avec les deux testicules, le pénis, etc. Et la femme, il y avait un petit triangle. Pas de clitoris, pas d'indication du vagin, de la vulve, bien sûr, quel mot affreux. Le créateur a eu une drôle d'idée de fabriquer des machins mous, sans couleur, sans température, c'est ni froid ni chaud, il y a quatre poils. C'est un drôle de truc. Si les femmes avaient ça, qu'est-ce qu'on aurait entendu dans les livres pornographiques? Bon, ben, on trouve ça mignon, rigolo. Après tout, tout n'a pas besoin d'être sublime. Le pénis, c'est une autre affaire. Il est capricieux, il est intéressant. Mais les testicules, ça n'a aucun intérêt, sauf de garder au frais ces chers spermatozoïdes.
Qu'a-t-elle, vous allez réagir tout de suite, hein, qu'a-t-elle Müller à Benoît Groult, je le rappelle, dans ce documentaire dont on a passé plusieurs extraits durant cette émission spéciale, ça s'appelle Femmes en filigrane, réalisé par Marjorie Desjardins. Là, c'est un cours d'anatomie, en tout cas raté, hein, jusqu'ici, dans l'histoire, sur ce qu'est la représentation du sexe féminin. C'était ce combat sur le désir, sur une meilleure connaissance du sexe féminin, c'est quelque chose que vous aviez évoqué dans vos rencontres avec Benoît Groult, Katel Müller?
Oui, bien sûr, on a beaucoup parlé de sexualité. Et puis bon, vous voyez, elle est très drôle. Hein. Quel personnage de bande dessinée pourrait parler aussi bien que celle-ci? J'aurais pas pu l'inventer. Elle était extraordinaire et elle parlait crûment et avec humour et sincérité de ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voyait, sans tabou, sans préjugés. Donc on a beaucoup parlé de sexualité. Elle et m'a confié,
galipette, hein,
m'a confié voilà, tout ce qui se passait depuis l'époque de sa mère, qui lui expliquait comment il fallait justement faire la galipette pour séduire un homme. C'était un peu un passage obligé. Bon, même si c'était un peu un viol, c'était pas un problème, il fallait le faire. Et voilà, elle s'est insurgée petit à petit contre ces préjugés ou ces stéréotypes. Il fallait rentrer dans des carcans et elle voulait connaître le vrai amour, le véritable sentiment, mais aussi le véritable ressenti physique de l'amour. Et on a eu de grandes discussions jusqu'à Strasbourg, où je lui ai présenté ma sœur qui est sexologue. Et nous avons discuté en face de l'hôtel de la cathédrale à 11h le soir. Nous sommes allés dîner en face à la maison Kamerzell et nous avons parlé de sexologie entre 23h et minuit sur la sexualité féminine, débridée à 90 ans, sans tabou.
Et les droits politiques des femmes sont au cœur de ces luttes, mais aussi le corps des femmes. On en entend quelque chose, vous en dites un mot, Katel Müller. Le corps des femmes et les outrages qu'on lui fait subir. Vous consacrez plusieurs planches à la question de l'avortement dont on parlait dans la première partie de l'émission. Plusieurs avortements qu'elle a vécu dans sa chair. En quoi est-ce que la rencontrer son discours, et notamment sur cette question du corps, a pu faire peut-être évoluer votre dessin, qui est votre façon de représenter les hommes et les femmes, Katel Müller?
Ah, si son combat a fait évoluer mon dessin? Oh là, c'est difficile à dire, ça. Moi, j'ai essayé de restituer, avec un dessin relativement simple, quand même, des sujets très complexes. Comment montrer la clitorectomie? Donc, il fallait trouver des symboles, des plans, des choses qui l'évoquent sans montrer la violence. C'était effectivement un exercice un petit peu difficile, les avortements la même chose, mais je pense être arrivée à faire des sortes d'ellipses et de cadrages de manière à évoquer plus les choses qu'à les montrer. En tout cas, ne pas en faire des tabous et aller vraiment dans le vif du sujet tout de même. Hein. Et il y a ces mots qui sont suffisamment forts et crus pour qu'il n'y ait pas besoin de doubler ça avec du dessin.
Oui, les mots des hommes, et au moment notamment du procès, ça c'est quelque chose que vous reprenez, sur parce qu'on fait des allers-retours entre le présent et le passé. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette discussion sur la sexologie aussi, je voudrais qu'on l'écoute une dernière fois pour clôturer, une idée du désir féminin?
Mais vous savez, quand on a été pendant 2000 ans le roi de la création, quand on a fait les lois, quand on a régné sur les pays, qu'on a fait les religions, qu'on est les seuls prêtres de toutes ces religions, tout à coup, de perdre un à un ses droits, ça doit être un problème très difficile, de descendre de leur piédestal, s'apercevoir qu'ils ne sont pas les seuls intelligents. Ça doit être très dur, ils vivent un siècle très difficile. Il faut qu'ils se recomposent aussi. C'est à eux de faire le gros effort maintenant, chacun son tour. Ils auront moins longtemps que nous à le faire, parce que l'égalité au fond à vivre, c'est passionnant.
L'égalité au fond à vivre, c'est passionnant. Et comme elle le rappelait aussi, une femme qui a du plaisir n'est pas forcément, comme le dit Jean Ferrat, une femme pas distinguée. Voilà, ça fait partie des enseignements des chantiers qu'elle laisse pour le 21e siècle. On vous retrouvera, Katel Müller, autour de Joséphine Baker. C'est la prochaine aventure de roman graphique.
Oui, Joséphine que Benoît a connue et que sa mère a très bien connue. Et son oncle, donc le frère de sa mère, Paul Poiret, a habillé. Donc elle m'a suivie pendant 3 ans, elle a regardé avec beaucoup d'intérêt comment je représentais cette formidable star noire, première femme connue internationalement de couleur.
Ping-pong.
C'est déjà fini.
Merci.
Et c'est une déception.
Merci beaucoup, Katel Müller, d'avoir été à nos côtés ce soir en hommage à Benoît de Groult. Donc votre roman graphique, c'est Ainsi soit-elle. Il est publié chez Grasset.
Ainsi soit Benoît de Groult.
Ainsi soit-elle,
on peut le relire.
Ainsi soit-elle, c'était
de
l'ouvrage de 1975 qui l'a fait connaître, elle aussi, internationalement. Évidemment, l'ensemble des romans, des essais de Benoît de Groult sont publiés également chez Grasset, depuis cette Ainsi soit-elle jusqu'à La Touche étoile et Mon évasion, cette autobiographie qu'on a eu la possibilité d'évoquer ce soir. Laure Adler était à nos côtés, vous pourrez la retrouver face à face, en tête à tête avec Benoît de Groult dans la rediffusion ce soir dans Hors-Champ d'un entretien enregistré en 2010.
Le ping-pong est un combat radiophonique qui se mène en équipe et qu'à l'équipe, à la rédaction Aïssatou Ndoye, Hélène Delier et Mathilde Cadreau, à la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau. On retrouvera d'ailleurs un disque du jour dès demain et à la prise de son ce soir, Anthony Thomasson et Myriam Guillot.
Mais qu'en sera-t-il de notre beau mercredi, Mathilde?
Demain, Vertige lucidaire et marge brute avec le documentaire de Joris Lachaise sur la psychiatrie en Afrique et celui de Philippe Lespinasse sur des héros méconnus de l'art brut.
Et tout de suite sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès de la Comédie Française.